France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, vaut-il mieux acheter, louer ou se mettre en colocation ? Concernant l'achat d'un bien immobilier, nous verrons s'il est toujours aussi difficile d'acquérir un appartement ou une maison, quel est l'état du marché immobilier dans notre pays, pourquoi même avec un CDI il est difficile pour certains d'acheter, comment bien négocier son taux d'intérêt, faut-il forcément se tourner vers un courtier, quels sont les dispositifs pour les primo-accédants, comment vendre vite et bien sa maison ou son appartement, quelles sont les erreurs à éviter, et si on n'arrive pas à acheter ou si l'on éprouve des difficultés à louer, dans quel cas est-il bénéfique de se mettre en colocation. Bref, nos invités ont du pain sur la planche et attendent toutes vos questions sur l'immobilier au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli Radio France où vous pouvez laisser messages et notes vocales. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode
France d'emploi. Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rebbi.
Face à une conjoncture économique incertaine, les mœurs évoluent. La tendance à vivre au jour le jour se banalise, y compris pour se loger. Aussi, faute de pouvoir acheter le bien rêvé, ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers la location, dont les prix ont paradoxalement peu varié ces dernières
années. Effectivement, les loyers ont un peu augmenté, mais on reste quand même dans le prix du marché, surtout pour des maisons. Aujourd'hui, les maisons sur 955 euros, on est largement dans les prix du marché actuel. L'équivalent à l'achat, ouais, surtout sur ce type de bien, on va aller chercher des mensualités qui seront beaucoup plus hautes que le prix du loyer. On sera plus sur du 1300 ou 1400 euros de mensualité. Donc tout le monde, malheureusement, ne peut pas se permettre de mettre ces mensualités-là, quoi.
1400 euros de mensualité pour acheter cette maison de 5 pièces, quand en location, elle coûterait 500 euros de moins chaque mois.
Bonjour, c'est ici.
Ce calcul, Philippe Pivolo, directeur d'école, l'a très vite fait quand il a emménagé dans ce grand 4 pièces en plein centre de Lons-le-Saunier qu'il n'aurait jamais pu acheter.
On aime bien dans des endroits qu'on pourrait éventuellement ne pas se payer, ce qui est l'avantage d'être locataire finalement. Là, je me suis positionné, parce qu'il y a une estimation qui a été faite il n'y a pas très longtemps dessus. Donc j'ai fait savoir qu'éventuellement, ça pourrait m'intéresser, l'achat. Je n'ai pas le chiffre. Moi, j'estime ça à peu près 170 000, ce qui est vraiment à la limite de ce que je peux mettre, même la limite plus.
Extrait de l'enquête de région diffusée sur France 3, Franche-Comté-Bourgogne, le 16 mars dernier. Alors, vaut-il mieux acheter, louer ou se mettre en colocation ? Élément de réponse ce matin. Bonjour Olivier Marin.
Bonjour Ali.
Journaliste au Figaro Immobilier, l'un des meilleurs connaisseurs du secteur. Vous aviez publié en 2023 « L'urbanisme demain, la ville bouge et se transforme ». Bonjour Lionel Mauguin.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste et chef de la rubrique « Argent à 60 millions de consommateurs ». Bonjour Diane Lévy.
Bonjour Ali.
Vous êtes courtière et directrice commerciale d'Immopré, un réseau de courtiers notamment spécialisé dans le crédit immobilier, l'assurance emprunteur et le regroupement de crédit. Bonjour Émile Guéry.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et directeur général de Sociovision au sein du groupe IFOP. Et bonjour Christophe Van Der Meren.
Bonjour Ali.
Vous êtes agent immobilier chez Effectimo en Seine-et-Marne. Alors Olivier Marin, j'aimerais qu'on fasse un état des lieux très global de la situation de l'immobilier dans notre pays. Le secteur vient de vivre 2 années de crise assez difficile.
Oui, alors il faut voir d'où on revient. On a eu en fait en matière d'activité des années records en sortie de Covid. Il faut avoir ça en tête, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. 1 200 000 ventes au niveau national, ce qui était extraordinaire au niveau de l'activité. On avait des taux d'intérêt historiquement bas, on était autour de 1%. On avait des bonnes conditions de crédit, il y avait cette envie de maison, d'appartement, donc ça s'est traduit. Et puis le Covid... les hausses des coûts de construction, l'énergie, les conditions d'emprunt qui se sont restreintes aussi. Et puis les taux d'intérêt, qui étaient un véritable levier pour beaucoup, en fait, sont passés de 1% à 4% très rapidement, ce qui a littéralement, on va dire, bloqué le marché. Et donc, on est passé de ce 1 200 000 à 800 000 ventes. Est-ce que la crise immobilière est derrière nous ? Est-ce que c'est terminé ? Quels sont les nouveaux signaux, là, depuis le début de l'année ? Il y a, on va dire, une éclaircie. Ça va mieux, c'est ce qu'on entend d'ailleurs de la part des agents immobiliers.
D'ailleurs, le mot reprise semble le mot à la bouche de tous les experts
de
l'immobilier.
Oui, on entend parler de printemps de l'immobilier, de reprise, d'éclaircie. Enfin, en tout cas, ça va mieux au niveau de l'activité. Des transactions à la hausse, stabilisation des prix, des conditions d'emprunt qui sont meilleures, des taux d'intérêt donc, qui ont maintenant baissé, on est autour de 3%, mais on est quand même dans un contexte économique, géopolitique extrêmement fragile, extrêmement mouvant. On a des indicateurs au vert actuellement et puis des indicateurs dans le rouge. Alors au vert, ce qui va bien, c'est que d'abord, il y a l'appétence, il y a de nouveau cette envie d'acquérir. On le voit sur les portails immobiliers, on le voit chez tous les confrères. Il y a des transactions qui repartent à la hausse au niveau national. Selon les statistiques des notaires, on est à plus 10% par rapport à l'an dernier. Donc ça, c'est véritable. Des conditions de crédit, en fait, qui s'améliorent. La production de crédit est à la hausse. Des taux d'intérêt autour de 3% qui redonnent, en fait, un petit peu de visibilité. Beaucoup se disent, on a attendu, on va repartir. Et puis, on a des prix des logements qui se stabilisent avec aussi des leviers comme le prêt à taux zéro, je pense qu'on évoquera tout à l'heure, dans le neuf. Et puis, parallèlement, parce que c'est un marché, il y a des indicateurs dans le rouge. Alors, ce qui ne va pas, c'est le manque de logements dans les grandes villes, le manque de logements étudiants, le manque de locations classiques. Il y a eu une véritable frénésie sur Airbnb, sur en fait, cette dérive sur la location touristique. Mais du coup, on ne trouve quasiment plus de location classique. Les mises en vente sur un an dans le collectif dans le neuf s'effondrent, des opérations immobilières qui s'arrêtent, des mises en chantier en baisse, des permis de construire en baisse, pas de visibilité. Et puis la crise du logement tout court, hein, 350 000 personnes sans domicile fixe, 2,5 millions de ménages en demande d'un logement social. L'immobilier, c'est une chaîne. Tout ça, ça a un impact parce qu'il y a aussi cette rareté des biens, qu'il n'y a pas assez de logements, il y a aussi des prix qui restent élevés.
Votre point de vue, Christophe Van der Meren, vous qui êtes agent immobilier, vous le constatez, cette dynamique qui semble reprendre avec un volume de vente qui augmente, avec des prix relativement sages et des taux relativement acceptables ?
Alors oui, mais il n'y a rien d'uniforme hein, en fonction évidemment des secteurs. On a effectivement des marchés encore pénuriques, d'autres qui sont à l'inverse plutôt avec une offre pléthorique. Après, au niveau des prix, pareil, c'est très variable en fonction de la motivation des vendeurs à vendre. Est-ce que c'est vraiment un projet réel? Est-ce que certains veulent faire tout simplement un coup hein? Ils ont profité, ou veulent profiter en tout cas de l'effet de levier lié au Covid. Et là, effectivement, on peut encore avoir des prix encore un peu élevés et en face, du coup, pas d'acquéreurs.
Diane Lévy, votre point de vue de courtière sur cette reprise, cette éclaircie
Absolument. Alors, il y a une légère reprise, en effet, depuis...
Ah, vous parlez de légère.
Oui, il y a une légère reprise. Ouais. On est toujours dans une crise... la crise n'est pas derrière nous, ça c'est certain. On a vécu effectivement deux années extrêmement compliquées dans le monde du courtage en crédit immobilier. Les banquiers étaient très fébriles à l'idée de prêter. Les critères pour obtenir un prêt étaient de plus en plus restrictifs. Et puis, la hausse des taux a fait que forcément, un client qui est déjà propriétaire, qui a acheté son bien il y a 5-7 ans, qui a emprunté à 1%, qui aujourd'hui voudrait acheter plus grand, une pièce en plus, etc., ben en fait, il ne revend pas. Parce qu'il va revendre à peu près au même prix où il a acheté et il va emprunter trois fois plus que l'emprunt qu'il a eu au départ. Donc en fait, tout ça, ça bloque forcément le marché et donc il est moins liquide et forcément, les gens ne vendent pas pour acheter autre chose. Olivier parlait tout à l'heure des investisseurs, enfin du fait qu'il n'y ait pas de biens en location classique ou très peu, et ça aussi, c'est la résultante des investisseurs qui ont été une cible extrêmement ciblée des banquiers malheureusement et qui ne pouvaient plus investir pour mettre des biens en location à destination des gens qui veulent louer.
Lionel Mauguin.
Oui, c'est quand même pas flamboyant d'un point de vue purement financier. Après, n'oublions pas que qu'acheter un logement, c'est d'abord un projet de vie. Bon, enfin, on va parler finance quand même. Aujourd'hui, il faut 15 ans pour amortir l'achat d'un logement de 70 mètres carrés, en moyenne en France. À Paris, c'est presque 30 ans. À Lille, Bordeaux, c'est 20 ans pour amortir, c'est-à-dire rembourser les frais de notaire, tous les frais. Il y a 3 ans, c'était 4 ans en moyenne nationale. Vous voyez la différence? Alors, ça veut dire que ça peut revenir. Mais on est encore bloqué par cette situation. Et il y a d'autres éléments qui sont sociologiques, mais je pense que vous en parlerez. C'est l'instabilité des foyers, l'instabilité professionnelle, l'instabilité relationnelle. Quand vous achetez, et ça, je crois que tout le monde va être d'accord, il ne faut pas revendre dans 2 ans.
Ah bah non.
Il faut garder le bien pour des raisons financières 5, 10 ans. Donc il faut savoir où on en sera dans sa vie dans 5 à 10 ans, ce qui est compliqué. Mais on ne peut pas donner un autre conseil. Si vous achetez, c'est pour être sûr que vous serez là, en tout cas, dans 5 ans.
Ça fait des années que la moyenne de taux de détention d'un premier bien pour les primo-accédants est entre 7 et 8 ans. Moi, j'ai fait un petit calcul. Si un couple achète un bien à 250 000 euros, qu'il le revend dans 7 ans au même prix, il a capitalisé, entre les intérêts et le capital avec un taux à aujourd'hui, 70 000 euros. D'accord ? Donc, il a mis de côté 10 000 euros par an en achetant son bien. Quand on est locataire, certes, on va payer 300 ou 400 euros de moins par mois que la mensualité du prêt, mais on va mettre ces 70 000 euros, entre guillemets, à la poubelle. Donc, on a quand même...
Le regard du sociologue Rémy Houdguéry.
Oui, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, enfin, les études le montrent, les gens ont une vision de l'avenir qui est totalement invisible. Enfin, il y a une incertitude énorme. Mais alors, ce que ça renforce chez beaucoup de gens quand même, c'est le besoin d'avoir une stabilité, une sécurité. Ils ont beau ne pas savoir ce qu'ils seront dans 10 ans, la propriété, ça reste quand même la meilleure assurance. Alors, toutes les questions qu'on pose dans nos études, ça se confirme. Donc, il y a une énorme frustration dans la société actuelle, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont envie de devenir propriétaires et qui se trouvent face à des impossibilités financières, vous l'avez rappelé également, des questions d'offres, etc. D'où le fait que se développent des situations. Alors, la période est plutôt favorable pour tous les types de colocations, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que par défaut, on se met ensemble, on retrouve une forme de convivialité dans ce qui ne peut être que transitoire. C'est-à-dire que personne ne pense aujourd'hui la colocation comme un état pérenne. En fait, chacun veut à un moment donné devenir propriétaire.
Et Rémy Houdguéry, vous parlez de frustration, mais cette frustration peut se transformer en ressentiment qui peut avoir un débouché politique.
Exactement. Je pense que si le climat politique est celui qu'on connaît tous, c'est que derrière, il y a des... Alors, il y a la question du logement, mais après, il y a la question de l'inflation qui, même si elle ralentit, elle est toujours aussi élevée. Et donc, c'est vrai, mais c'est important de voir que, y compris les jeunes, et j'ai même envie de dire encore plus les jeunes, ont envie de devenir propriétaire, contrairement à un mythe véhiculé. Oui. Ils se sont habitués sur plein de domaines, la musique, le cinéma, plein d'autres choses, à s'abonner, à être en mode de location. Même aujourd'hui, on loue des vêtements pour une cérémonie particulière. Mais le logement, ça doit être l'ancrage qui nous permet de voir l'avenir, justement, avec un certain optimisme.
Bonjour Jérémy Pelletier.
Bonjour Ali.
Co-directeur de la Fondation Jean Jaurès. Quel est le menu de votre chronique « Les Français, mode d'emploi » ?
Je vais vous parler de Français un peu particuliers, un peu bizarres dans cette époque, des Français qui donnent du temps gratuitement pour faire des choses dans des associations. Je vais vous parler des bénévoles, parce que eux aussi ont eu un impact, justement, depuis la crise sanitaire. On va regarder s'il y a davantage ou moins de bénévoles qu'avant la crise sanitaire. Qui sont ces bénévoles? Bref, ces Français un peu bizarres, mais qui sont très importants pour tenir la société.
France Inter. Là, la maison que je vous propose, c'est off-market. C'est-à-dire que personne d'autre ne l'a vu à vendre. Et j'ai déjà 5 propositions.
Grand bien vous fasse.
Donc je vais pas vous le cacher, il va falloir aller vite. Sixième proposition. Je vais rien vous cacher.
Ah oui ?
Elle est vendue. Vous n'avez pas réagi assez vite. Eh oui.
Ali Rebbi. Vaut-il mieux acheter, louer ou se mettre en colocation, nos experts et expertes attendent de vos questions au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France et nous accueillons une notaire. Bonjour Flore de Saint-Maurice.
Bonjour.
Vous êtes notaire à Paris et porte-parole des notaires du Grand Paris. Pouvez-vous nous faire, de votre point de vue, du notariat, un état des lieux des transactions immobilières à Paris et région parisienne et ailleurs en France? Quel est le climat du point de vue des notaires?
Comme le disait Olivier Marin, on observe du mieux dans le volume des ventes, du mieux, mais les volumes restent très très faibles. On a effectivement observé une augmentation de 11% sur le volume des ventes entre décembre 2024 et février 2025. Donc, Paris reste un peu à la traîne sur l'Île-de-France, mais on a une augmentation de 5%. Concrètement, ça nous donne un peu d'espoir puisqu'on observe tout de même une reprise et même des prix qui sont plutôt orientés à la hausse quand on regarde les prévisions de vente, de prix de vente pour juin 2025 d'après nos avant-contrats.
Et quels sont les prix du mètre carré moyen dans l'ancien, à Paris et dans quelques grandes villes françaises comme Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Strasbourg, Lille ou Rennes? Quelles sont les tendances?
Alors à Paris, on a une moyenne au prix au mètre carré de 9 500 €. Ce qui fait encore une baisse si on regarde l'année écoulée de 0,5%. Mais si on se projette un petit peu, on devrait ressortir à 9 640 euros en juin 2025.
À Paris.
Hein. Toujours d'après nos avant-contrats à Paris. Mmh. Voilà. Et cette tendance haussière, on l'observe aussi en, plus généralement en Île-de-France, mmh. avec une très légère augmentation des prix qui se projette d'après nos avant-contrats. Et on l'observe aussi en région, hein, avec au minimum une stabilisation des prix et une perspective de légère augmentation, notamment sur Toulouse, Marseille, Strasbourg, Lille, Rennes, peut-être encore une très légère baisse à court terme sur Lyon et une stabilité sur Bordeaux. Donc on voit en fait les prix se maintiennent.
Olivier Marin, journaliste oui. au Figaro Immobilier.
Oui, juste pour compléter, les prix à Paris ont arrêté de baisser. Oui. En fait, ils baissaient ces derniers temps. Là, ça y est, on a atteint une sorte de plancher. Ça commence à remonter très légèrement. 9 500 euros, c'est le prix moyen au mètre carré à Paris, dans l'ancien. Il faut avoir en tête, si on a la carte de France, ensuite il y a trois villes où on peut devenir propriétaire autour de 4 500 euros par mètre carré. C'est Nice, c'est Lyon et c'est Bordeaux. Ensuite, vous avez des villes autour de 3000 euros par mètre carré en moyenne. Alors, c'est Nantes, c'est Rennes, c'est Lille, c'est Marseille, c'est Montpellier, c'est Toulouse, c'est Strasbourg. Et puis, des villes où on peut devenir propriétaire, on va dire autour ou à moins de 2000 euros par mètre carré. Alors, c'est Metz, Mulhouse, Saint-Étienne, Besançon, Bourges, Limoges, Clermont-Ferrand. Alors, évidemment, ce sont des moyennes. Il y a des disparités selon les quartiers. Mais ce que aussi les gens regardent de plus en plus, c'est maintenant la note énergétique du DPE. C'est ce qu'on appelle aussi la valeur verte du logement. Et ça a un impact énorme parce que les établissements bancaires vont aussi vous aider. Avant, pendant longtemps, c'était « Monsieur Ali, qu'est-ce que vous souhaitez acheter ? Est-ce que vous avez les capacités de rembourser ?» C'était la seule question. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous souhaitez acheter ? Quelle classe ? A, B, C. Et en fait, à partir de là, si vous achetez par exemple un bien vertueux, classé A et B, la banque va vous faire une décote. Si vous voulez engager des travaux, la banque va aussi vous accompagner. Donc véritablement, c'est enfin, vraiment quelque chose à prendre en compte qui bouleverse un petit peu l'attitude que l'on a par rapport au marché. Oui, un quartier, oui, un bien, oui, des transports, oui, l'emploi, mais la valeur verte, la valeur énergétique du bien a pris beaucoup d'importance.
Merci beaucoup, Maître Flore de Saint-Maurice, pour votre point de vue notarial. Diane Lévy, votre point de vue de courtière et de directrice commerciale d'ImmoPrêt.
Alors, comment dirais-je ? Les DPE, donc ce dont vient de parler Olivier Marin, le diagnostic de performance énergétique est un document qui est devenu obligatoire lorsqu'on fait une demande de prêt. Voilà. Donc comme ça, c'est dit. La banque, elle a l'obligation de voir quelle est la lettre du bien sur lequel elle va proposer un crédit. Et effectivement, on a des partenaires bancaires qui sont revenus sur le marché. La concurrence est là. Tout à l'heure, on se demandait si c'était compliqué d'obtenir un crédit. Ça l'est de moins en moins, clairement. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Les banquiers sont de retour, ont envie de prêter, ont envie de conquérir de nouveaux clients. Et donc, dans le cadre de biens avec des bonnes notes, en termes de DPE, il y aura des taux préférentiels, mais en cas de mauvaise note sur le DPE, il y aura une aide aussi pour pouvoir faire les crédits de travaux qui vont permettre de rendre le bien plus vertueux. Donc dans les deux sens, le partenaire bancaire va aider. Et si on a un prêt à taux zéro et qu'on achète dans le neuf, on a aussi régulièrement une aide supplémentaire, des espèces de boosts de prêt à taux zéro avec des enveloppes qui sont encore à taux zéro et qui sont mises à disposition des clients qui achètent dans le neuf.
Christophe Van Der Meren, je rappelle que vous êtes agent immobilier chez Effectimo. De façon globale, en ce moment, ce sont plutôt les acquéreurs ou les vendeurs qui sont en position de force ?
Une fois de plus, tout dépend des secteurs, mais dans de nombreux cas, les acquéreurs se sentent effectivement en position de force, surtout lorsqu'ils voient des annonces qui traînent un petit peu sur le marché. Et là, ils pensent effectivement qu'ils peuvent négocier. Bon, parfois, de façon un peu exagérée, mais c'est un peu leur sensation. Je reviens sur l'histoire du DPE, qui est vraiment effectivement devenu, à mon sens, un élément constitutif du prix. On voit que dès qu'on touche des lettres comme E, F, G, que le propriétaire ait l'intention de le mettre en location ou pas, parce que là, effectivement, ça peut être déterminant. Mais même s'il veut y habiter, on voit une certaine réticence et une certaine inquiétude par rapport au coût des travaux. Mmh. Alors maintenant, effectivement, l'audit énergétique est rendu obligatoire pour les biens qui ne sont pas en copropriété, pour le E, F, et G, qui chiffre un petit peu le montant des travaux à réaliser. Mais la difficulté, c'est qu'en fait, dans les annonces que l'on peut passer, on a l'étiquette énergétique, mais on ne sait pas réellement ce que ça sous-entend en termes de coûts.
Voilà.
Et ça peut bloquer des gens qui n'appellent pas à cause d'une mauvaise étiquette énergétique.
Vous le confirmez?
Oui, absolument. Oui, tout à fait. Et puis ça bloque aussi les investisseurs qui ont projet d'acheter pour mettre en location et qui se retrouvent effectivement bloqués pour la mise en location en fonction de la note du DPE.
Lionel Mauguin, journaliste à 60 millions de consommateurs.
Bah oui, vous savez qu'on ne peut plus louer un logement qui a une lettre G depuis cette année. Et en 2028, ce seront les lettres F. Donc ça joue énormément. Ça joue énormément dans le choix des futurs acheteurs. Ça joue aussi dans le choix des propriétaires actuels. Ils ne peuvent plus louer. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire de leur logement? Est-ce que j'engage des travaux? La plupart du temps, un sur deux n'engage pas de travaux. Donc on se retrouve avec des logements qui pourraient être loués, qui sont plus loin et qui sont vides. Et aujourd'hui, étant donné les coûts des rénovations, ça pose un problème. C'est un des problèmes du marché du logement. C'est on sort un certain nombre de logements du marché de la location. Il y a un problème, effectivement, alors je ne sais pas si on en parlera, mais de construction. Mmh. Les professionnels de l'immobilier nous disent qu'il faut 450 000 logements par an pour répondre à la demande. On en est à 263 000 en 2024. Mais c'est évident que ça bouchonne sur le marché immobilier. Les locataires qui aspirent à acheter ne libèrent pas, jusqu'à un passé récent, leur logement, donc ne peuvent pas donner accès à d'autres locataires qui viendront acheter dans quelques années. Donc, comme vous disiez, c'est une chaîne qui est un peu grippée. Et, alors, évidemment, c'est intéressant d'un point de vue intellectuel de parler de tout ça, mais quand vous avez un projet et que vous vous demandez bon, qu'est-ce qu'on fait? On achète comment? Est-ce qu'on achète en banlieue ou est-ce qu'on vise plus petit? Et ça dépend encore une fois de son projet de vie. Si vous attendez un enfant dans quelques années, bah, il faudra en tenir compte. Vous n'allez pas encore acheter un autre logement. Si, à l'inverse, les enfants vont partir, il faut en tenir compte. Donc c'est vraiment personnalisé, mais je pense que vous êtes d'accord. C'est sa vie. Alors, c'est très intéressant de parler des marchés, tout ça, mais... Et puis après, il y a des techniques, effectivement, pour négocier. La banque, elle revient. Bon, ben, merci. Mais enfin, quand vous négociez avec la banque, on a encore des témoignages de gens. Si vous prenez mon assurance emprunteur, je vais vous faire un tout plus intéressant. Donc, c'est vraiment des marchands de tapis. Enfin, il n'y a plus beaucoup de commerçants qui négocient comme ça. Donc, ben, il va falloir se défendre son dossier.
Le marché locatif est donc en tension, vous l'avez dit, on construit moins de logements, l'investissement locatif s'écroule, et puis les bailleurs sociaux vendent plutôt que de rénover, et puis il y a ces locataires qui n'arrivent pas à acheter, qui restent en location dans leur appartement ou leur maison, Olivier Marin. C'est une des raisons aussi qui met en tension ce marché locatif.
Mais le marché locatif, moi j'ai regardé justement, je me suis dit, mais par rapport à l'émission, on va faire quelque chose de tout simple. J'ai regardé sur le portail Figaro Immobilier et après sur Se Loger. Le nombre d'annonces de biens à la vente, typiquement à Paris. Actuellement, biens à la vente à Paris, il y en a 16 300. Biens à la location dans le privé à Paris, c'est-à-dire hors location touristique saisonnière, 4 200. C'est-à-dire 4 fois moins. J'ai regardé sur Se Loger, nombre de biens à la vente à Paris, on est à un peu plus de 20 000. Nombre de biens à la location, 5 000, 4 fois moins. J'ai pris l'exemple d'une ville comme Rennes. Sur Figaro Immobilier, bien la vente, 1500. Bien la location dans le privé à Rennes, 170. Sur Se Loger, bien la vente à Rennes, 2300. Bien la location à Rennes, 515, c'est-à-dire 4 fois moins. C'est valable pour Paris, c'est valable pour Rennes, c'est valable pour beaucoup de villes, parce qu'aussi, je ne vais pas dire qu'on a engendré un monstre, mais c'est vrai que sur la location touristique saisonnière type Airbnb, vous n'avez pas d'encadrement de loyer, vous n'avez pas d'obligation de rénover votre logement. Donc beaucoup se sont dit, et puis en complément de revenus, après tout, voilà, il faut savoir que Airbnb, après les États-Unis, quel est le pays où il y a le plus d'offres Airbnb au monde? C'est la France.
Le regard de Jérémy Pelletier, co-directeur de la Fondation Jean Jaurès.
Oui, bah, tout ça crée en fait beaucoup, beaucoup d'inégalités. Et on parlait en effet des jeunes. Ce qui est très préoccupant en effet par rapport aux villes que vous citez, ce sont beaucoup de villes étudiantes. Ce sont beaucoup de villes où, par définition, des jeunes, parfois plutôt issus du monde rural, parfois issus de ce qu'on appelle la France périphérique, ont vocation en effet à étudier durant 2, 3 ou 4 années. Et force est de constater qu'aujourd'hui, une des principales inégalités qu'il y a entre ces jeunes-là et les jeunes qui habitent déjà dans ces villes, c'est en effet la capacité à avoir un logement, la capacité à être logé. Et on voit de plus en plus que le fossé est en train de se creuser entre les jeunes qui ont la possibilité d'avoir des familles qui ont un patrimoine par définition immobilier, et donc qui peuvent être logés dans les grandes villes, notamment pour leurs études, versus les autres jeunes qui en effet n'ont pas cette capacité-là. Et donc je crois que ce que c'est en train de créer, au-delà, effectivement, on a parlé de la frustration, on a parlé du ressentiment, et ce que c'est en train de créer en effet, c'est en tout cas un accès à la mobilité dans les grandes villes pour certains jeunes qui vont vouloir étudier dans les grandes villes, qui est en train en effet de se rétrécir, qui est en train de se recroqueviller, et donc le fossé entre les habitants des grandes villes et les autres qui est en train en effet de grossir petit à petit.
D'où Rémi Oudguiri, vous êtes directeur de Sociovision. Dans ce contexte de tension du marché locatif, eh bien, l'une des solutions, c'est de se mettre en colocation, la colocation longtemps réservée aux étudiants.
Oui, mais maintenant on est quasiment à un tournant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quasiment une colocation sur deux, ce sont des jeunes actifs. C'est-à-dire que désormais, beaucoup de jeunes ont acté le fait qu'une partie de leur début de carrière va se passer en communauté. Alors, il y a des choses très positives, évidemment, d'être ensemble, de partager. Alors, il y a bien sûr la contrainte économique est le premier levier de ça, c'est la première motivation. Mais après, effectivement...
Un chiffre tout de même, 2,5 millions de personnes vivent en colocation dans notre pays.
Oui, tout à fait. Donc, c'est moins que dans d'autres. C'est moins qu'en Allemagne, c'est moins qu'en Grande-Bretagne, où il y a des traditions, où c'est... comme on prend son envol plus tôt qu'en France, en général, on commence par la colocation, c'est une étape, la Gemeinschaft allemande, etc. Mais en France, il y a vraiment un phénomène nouveau, c'est ce besoin qu'on va avoir, 1, 2, 3, peut-être même encore plus, à vivre ensemble. Là encore, je pense qu'il faut voir aussi les aspects positifs, c'est-à-dire qu'on apprend à vivre ensemble, à respecter des règles, à s'entendre, enfin voilà, je pense que dans une société très individualiste quand même, qui est la nôtre, il y a une vertu, on va dire, c'est un mal pour un bien. Néanmoins, ça peut pas se substituer à ce qui est quand même le grand rêve français, que le rêve, toutes les enquêtes le montrent, et depuis des décennies, le rêve pavillonnaire, ça reste dans la conscience française, dans la culture française. Le rêve, c'était ce que Alfred Seville, dans les années 40, avait déjà mesuré dans les enquêtes de l'INED. Un pavillon avec un rez-de-jardin. Voilà, c'est le rêve, le grand rêve, et c'est le jour où on a ça...
Mais tout de même, Rémi Oudguiri, d'après votre étude de Sociovision, la colocation va se développer dans toutes les générations, pour plusieurs raisons.
Oui, tout à fait. Alors, il va y avoir... il y a bien sûr la contrainte économique, mais il y a aujourd'hui, dans nos sociétés, ce qui se développe le plus, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est qu'on est de plus en plus dans des sociétés où les gens vivent seuls. Et donc, il y a des sentiments d'isolement. Alors, chez les seniors, notamment, on vit de plus en plus longtemps, mais ça veut dire qu'on vit aussi de plus longtemps seul. Donc, on voit se développer de nouveaux concepts. Donc, il y a l'habitat intergénérationnel, il y a les maisons de seniors par opposition aux EHPAD qui ont mauvaise presse aujourd'hui. Il y a le concept de co-living qui vient des États-Unis qui, depuis une dizaine d'années, se développe. Alors, c'est encore tout petit, c'est émergent, mais on sent qu'il y a beaucoup d'investisseurs aujourd'hui qui comprennent que ça, c'est un logement d'avenir parce que ça correspond à des populations qui vivent seules, qui assument le fait de vivre seules, mais qui ont besoin de compagnie, qui ont besoin de partage à un moment ou à un autre. Donc, c'est vrai qu'on est encore sur des choses, par exemple, l'habitat intergénérationnel. Il y a beaucoup d'initiatives sur le territoire français, dans chaque grande ville, ou même dans beaucoup de petites villes, on voit émerger ce genre de choses. Si on le ramène en pourcentage, c'est très faible. Mais je pense que si on se projette à 10-15 ans, c'est quelque chose qui va se développer.
Lionel Mauguin.
Oui, d'autant plus que d'un point de vue du propriétaire, il y a quand même un grand avantage de faire de la colocation, puisque vous avez la caution solidaire. C'est-à-dire que s'il y en a un qui n'arrive plus, ou pour des raisons diverses, à pas payer, Il y aura les colocataires qui devront payer, voire leur garant. Et donc, en tant que propriétaire, il y a plus grande garantie d'avoir des loyers payés quand vous êtes en colocation.
D'où le développement du co-living. Mais justement, pour rebondir, si je peux me permettre, Ali, la cohabitation intergénérationnelle, vraiment pour les étudiants, enfin ceux qui recherchent des logements...
Expliquez ce que c'est, et est-ce que c'est un épiphénomène ou pas ?
Non, alors c'est l'échange volontaire et solidaire déjà entre deux personnes. Il faut savoir que la cohabitation intergénérationnelle, donc ça permet à quelqu'un qui est âgé de plus de 60 ans de louer une partie de son logement à un étudiant ou un jeune actif de moins de 30 ans. Alors généralement, donc c'est une chambre, dans une maison, un appartement. L'idée, c'est vraiment que ce soit... gagnant-gagnant. Pour le jeune, c'est moins cher qu'un loyer classique. Pour le senior, ça permet de rompre l'isolement. C'est un complément de revenu. Il y a des règles. La pratique, elle est vraiment encadrée. C'est inscrit dans la loi. On parle de renforcer le lien social. L'habitat, il est partagé de manière solidaire. Juridiquement, il y a un contrat entre les deux parties qui indique que celle de plus de 60 ans peut louer un jeune moyennant une contrepartie financière modeste. Alors, dans le parc privé, c'est convenu librement. Dans le social, c'est calculé au prorata du loyer des charges. On dit que le jeune peut réaliser des...
Jeune jusqu'à quel âge? Parce que, par exemple, Jean-Joseph nous écrit « Comment faire pour trouver un logement, en location notamment, quand on démarre une activité comme indépendant après une période de chômage pour reconversion et qu'on n'a pas de dossier solide à présenter ?» Donc, il peut se tourner vers la colocation. Et est-ce qu'il y a une limite d'âge, quand on est jeune, pour faire une colocation intergénérationnelle?
Jeune actif jusqu'à 35 ans, mais généralement c'est l'étudiant. Alors, vraiment, c'est l'entraide, la solidarité. Il faut savoir que le binôme, il est accompagné dans chaque étape par des associations. C'est pas comme ça non plus. Il y a vraiment le réseau Cohabilis, qui est spécialiste de l'habitat partagé. Il y a la Cabane des Liens, il y a Xenia Cohabitation, il y a Colette qui se développe en Ile-de-France. Il faut savoir qu'au-delà de l'aspect solidaire, il y a un vrai potentiel. À Paris, il y a plus de 100 000 seniors qui aujourd'hui disposent d'une chambre inoccupée à leur domicile, potentiellement, ça veut dire aussi des ouvertures. Et Colette, typiquement, cette association, accompagne donc les binômes pour les cohabitations qui vont en moyenne de un mois jusqu'à une année universitaire. C'est bien encadré et ça demande vraiment qu'à se développer. Et ça dit aussi quelque chose où, en fait, on a un gaspillage des mètres carrés qui est absolument énorme. En Ile-de-France, plus de 6 millions de mètres carrés de bureaux sont vacants. On peut les transformer en logement. Pas tous, mais on peut aussi imaginer pour des tiers-lieux, si on ne peut pas faire de logement, pour l'économie sociale et solidaire. Il y a un véritable potentiel. Il y a une association qui s'appelle Surface Plus Utile qui vient de déposer un projet, une proposition de loi justement à l'Assemblée nationale qui est repris parce que ça concerne tout le monde. C'est typiquement apolitique. C'est de justement encourager et de voir le potentiel que l'on a sous les yeux. Oui. De logements vacants, vides, que ce soit des bureaux, on pourrait les transformer en logements et on pourrait également avoir des établissements pour des tiers-lieux, des associations, des entreprises.
Lionel Mauguin.
Oui, pour compléter, et ça existe depuis très longtemps, mais si on peut aujourd'hui susciter un appétit pour la location, je rappelle que louer une chambre de sa résidence principale, c'est défiscalisé. Et alors, c'est plafonné, hein, c'est 213 mètres. L'euro le mètre carré en Ile-de-France et 157 euros dans les autres régions.
Cohabitation intergénérationnelle, il n'y a pas d'imposition fiscale, justement, oui. c'est ce qui est différent.
Oui, mais là, de manière générale et en dehors des générations, vous pouvez, Ali, vous avez peut-être une chambre, accueillir un étudiant.
Je vous accueille, Lionel, si vous voulez, mais vous n'êtes plus étudiant.
Et en plus, en franchise d'impôt. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez un étudiant à Paris, vous avez un grand appartement à Paris, ben louez votre chambre.
Ou dans une grande ville française.
Je pense qu'il faudrait vraiment favoriser ce type d'habitat. Il faudrait que, par exemple, jusqu'à présent, on disait qu'après les études, etc., il faudrait faire un grand voyage, faire une année sabbatique, etc. Pourquoi ne pas envisager que dans le futur, cette année sabbatique soit consacrée à l'intergénérationnel et à une forme de solidarité qui serait utile à la fois économiquement, mais aussi humainement parlant.
Allez, il est déjà 10h41, l'heure de retrouver le co-directeur de la Fondation Jean Jaurès, Jérémy Pelletier, pour les Français Mode d'Emploi.
Regardez Salomon, regardez.
Grand bien vous fasse.
C'est net, c'est silencieux, il n'y a pas de fumée. C'est un Français.
Ali Rebéi.
Tu peux pas faire la queue comme tout le monde? Abruti, crétin, cocu.
Sur France Inter.
C'est ça les Français.
Alors, Jérémy, ce matin, vous souhaitez nous parler de Français essentiels à la cohésion de la société, les bénévoles associatifs.
Et oui, mon cher Ali, le beau temps est là, le mois de juin arrive, c'est le début de la saison des tournois. Les tournois de foot, les tournois de pétanque, je sais que vous adorez ça. Gentiment, vous c'est commencez à sentir cette odeur de saucisses grillées et de barquettes de frites. Vous entendez le crépitement des sonneaux et le bruit de la buvette. C'est comme ça chaque année, quand le soleil pointe enfin le bout de son nez, et on adore cette ambiance pleine de barnums, de médailles et de tombolas. Eh bien, sachez que si tous ces tournois se tiendront encore cette année, c'est grâce à une armée de bénévoles qui donnent de leur temps gratuitement pour les autres, dans une ou plusieurs associations bénévoles à qui on ne rend pas assez hommage, alors que ce sont pourtant des piliers essentiels pour la bonne tenue de la société française. Et si j'ai envie de rendre hommage à ces piliers qui tiennent littéralement une partie de la société pour éviter qu'elle ne tombe, c'est qu'ils sont moins nombreux qu'avant et que la situation des associations semble de plus en plus fragile. C'est ce que nous montre la 6e édition du baromètre France Bénévolat, réalisé cette année avec l'IFOP et le Crédit Mutuel, qui vient de sortir il y a peu et que je vous invite à lire. En France aujourd'hui, on dénombre 12 millions de personnes qui sont bénévoles dans une association. Ça représente 21% de la population âgée de plus de 15 ans. Alors ça semble énorme comme ça sur le papier. Sauf que c'est inférieur à ce qu'on mesurait avant la pandémie de Covid. En gros, depuis la crise sanitaire, on a perdu environ 1 million de bénévoles dans les associations. Bénévoles qui ne sont jamais revenus. Manque de motivation, goût pour la sédentarité et le cocon, perte du goût des autres. On peut analyser cette baisse de plusieurs façons. Cette diminution est en tout cas bien réelle et concerne encore plus ceux qui composent pourtant une part très importante des bénévoles. J'entends évidemment les personnes âgées de plus de 65 ans. Notez bien, en 2010, 38% des plus de 65 ans participaient à une activité bénévole au sein d'une association. En 2025, ce chiffre chute à 24%, soit 14 points de moins en 15 ans. 38% en 2010, 24% en 2025. Autre enseignement de cette enquête, le bénévolat devient de plus en plus une activité de privilégiés qui habitent dans les grandes villes. Entendez-vous-même, 26% des diplômés du supérieur sont bénévoles, contre 12% seulement de ceux qui ont juste un CAP ou qui n'ont aucun diplôme. Et on note par ailleurs que c'est dans les territoires ruraux que l'on a le plus perdu de bénévoles en comparaison avec les territoires
urbains. Alors Jérémy Pelletier, est-ce qu'il y a quand même quelques tendances positives pour nous donner de l'espoir quant à l'avenir du bénévolat ?
Alors oui, tout n'est pas noir. D'abord, on voit que le bénévolat progresse chez les 15-34 ans, et ça c'est une vraie surprise. 23% aujourd'hui sont engagés bénévolement contre 16% il y a 15 ans. Donc ça, c'est un vrai point positif. C'est une bonne nouvelle et ça signifie que les jeunes sont en recherche de collectifs et en quête de retrouver un peu de sens et d'utilité dans cette société parfois surprenante. Ensuite, on voit qu'il y a moins d'engagements zapping ou ponctuels. En gros, les engagements de gens qui s'engagent juste une fois dans l'année ou ne reviennent plus. Et que les bénévoles en fait, qui sont là sont davantage présents par rapport à ce qu'on mesurait il y a 15 ans. Pour résumer, il y a moins de bénévoles depuis la pandémie, mais ceux qui sont là sont plus fidèles, sont plus réguliers, sont plus actifs, peut-être aussi pour compenser évidemment l'absence des anciens. Autre élément positif, alors que les associations caritatives ou d'éducation populaire ont perdu des bénévoles, il y a une activité associative, il y a un domaine qui a gagné des bénévoles par rapport à 2019, le sport. À l'heure où on va fêter les 1 an des JO bientôt, il serait donc bon de continuer à faire vivre la flamme sportive, car ça semble justement efficace pour lutter contre la flemme. Enfin, dernier élément, il y a un potentiel énorme en fait, de gens qui pourraient devenir ou redevenir bénévole dans la société française. Il serait environ 25 millions à vouloir le devenir ou le redevenir. Et en fait, on sait comment les accrocher. Un des premiers éléments que citent les gens qui ont cessé d'être bénévoles ou qui aimeraient l'être mais n'ont pas encore sauté le pas, eh bien c'est le manque de temps. La peur de manquer de temps ou de ne plus en avoir assez. Ça veut dire que les associations doivent accepter une part de souplesse, doivent être peut-être un peu moins rigides sur les horaires afin d'accueillir en leur sein des gens justement prêts à donner cette denrée rare et si précieuse que représente leur temps.
France Inter.
Vous seul ?
Non, pas exactement, j'ai un colocataire.
Rends bien vous face.
Ah, comme ça, vous êtes moins seul ?
Je le vois pas souvent. Il travaille, il dort, il travaille, il dort, et quand il travaille pas, il ramène des filles. Là, je le vois encore moins.
Ali Rebi.
Vaut-il mieux acheter, louer ou se mettre en colocation ? Élément de réponse avec nos invités. Nos experts attendent vos questions au 01 45 24 7000. Alors, j'ai repéré dans le Figaro quelques pistes pour vendre vite et bien. Mieux vaut faire confiance à un professionnel, hein, comme près de 70% des Français qui passent par un agent immobilier ou un notaire. Vous ne me direz pas le contraire, Christophe van der Meren, vous qui êtes agent immobilier.
Non, effectivement, je ne vais pas dire le contraire, mais en fait, si je devais donner un conseil d'ordre général à quelqu'un qui veut vendre son bien, c'est d'essayer, et je ne dis pas que c'est facile, de sortir de son costume de vendeur pour essayer de rentrer dans la peau de l'acquéreur. Parce qu'en fait, pour vendre un bien immobilier, ben, oui, nécessairement, il faut un acquéreur. Et l'idée, c'est qu'il comprenne bien ce qui va motiver ou pas l'acquéreur à s'intéresser à son bien. Et là, il y a trois éléments importants qu'il doit intégrer. Le premier, évidemment, c'est le prix. Hein, c'est normal. L'approche du prix, elle est radicalement différente selon qu'on soit vendeur ou acquéreur. Alors, le vendeur, évidemment, il intègre tout ce qui touche au coût d'achat, aux travaux qu'il a fait. Je rajoute un petit peu là-dessus, un peu d'affect, parce que c'est normal, c'est quand même moi qui l'ai décoré, c'est moi qui y ai habité, donc ça apporte de la valeur. L'acquéreur, lui, il est beaucoup plus pragmatique. Lui, il a un besoin, il va sur les portails d'annonces immobilières et il compare. Voilà, il va comparer les biens avec des caractéristiques évidemment qui lui correspondent, et il va d'emblée éjecter les biens qui lui semblent surévalués. Alors évidemment, ça va changer en fonction du fait que le marché soit offreur ou demandeur, mais il n'a pas envie de surpayer un bien, et on ne va pas le lui reprocher.
Comment vous faites entendre raison, justement, aux vendeurs qui surévaluent leur maison, leur appartement ?
Alors, justement, le premier travail, c'est d'essayer de lui dire, mettez-vous dans la peau de l'acheteur, mettez-vous dans la peau que vous étiez à l'époque et que vous êtes peut-être par ailleurs si vous vendez pour acheter autre chose. Alors, ce que j'essaie de leur dire, c'est que de toute façon, surévaluer le bien, c'est totalement contre-productif. Ce qui fait la valeur d'un bien, c'est aussi l'aspect nouveauté. En fait, pour vendre cher, il faut vendre vite. Voilà. Alors moi, j'ai des clients qui me disent « Oui, mais moi, je ne suis pas pressé. » Ah ben, oui. Mais là, j'essaie de leur faire prendre conscience que s'ils ne sont pas pressés, dans ce cas-là, qu'ils ne mettent pas en vente, qu'ils ne prennent pas le risque d'exposer leur bien, de le griller, parce que ça va être désastreux ensuite pour rattraper l'affaire.
Et puis, ce qui est important également, c'est, ça paraît bête, dit comme ça, mais c'est de soigner la mise en vente et les visites.
Alors, oui, évidemment, il faut que le bien par lui-même soit présentable, hein, bien entretenu, bien rangé, que la première impression que l'on ait quand on arrive soit bonne. Mais pour parler de visite, il faut déjà parler de la qualité de l'annonce. Il est très important que l'annonce donne envie. Alors, on néglige souvent le côté rédactionnel d'une annonce. L'annonce, elle est quand même là pour permettre à la cible qu'on a identifiée comme étant l'acquéreur potentiel de se projeter. Donc, il faut lui parler dans ce sens-là. Ensuite, il faut faire attention aussi aux visuels. Évidemment, il est important d'avoir des visuels de qualité, sans exagérer, pas la peine de tirer sur les angles pour rendre la telle ou telle pièce plus importante, mais il faut malgré tout que ce soit valorisant. Et parfois, il est même utile de se faire une petite vidéo qui montre dans les grandes lignes le bien, pas nécessairement dans sa globalité, parce qu'il faut que la personne arrive sur place et se rende compte, mais au moins ait un aperçu de ce qu'il va voir. Le troisième conseil que je vais donner, c'est de savoir remettre en cause ce qu'on a fait.
Oui.
C'est hyper important. Lorsque ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème. Il faut bien identifier le problème. Et le meilleur moyen d'identifier, c'est de savoir écouter ce que dit l'acquéreur. Voilà. Et ne pas hésiter à remettre en question la publication que l'on a faite et la stratégie de commercialisation.
Tiens, Diane Lévy, oui. Je rappelle que vous êtes courtière en immobilier. Comment se porte le marché du prêt immobilier? 12 milliards d'euros de nouveaux prêts hors renégociation selon des données publiées cette semaine par la Banque de France. Quel est le niveau des taux en ce moment hors renégociation, hors frais et assurance?
Alors, les taux ont commencé à baisser de nouveau en fin 2023. Il y a 3 ans, ils étaient à plus de 4% sur 20 ans. Aujourd'hui, on est autour des 3% sur 20 ans.
Donc 3-20 à peu près.
Oui, entre 3 et 3-20 en fonction des dossiers. Mmh. Plus le dossier est solide, plus il y a d'apports, plus les revenus sont intéressants.
3-20 hors frais et assurance. Hein.
Alors, hors assurance. Mmh. Hors assurance, parce que l'assurance, elle vient se greffer évidemment au taux et elle représente aussi une partie très importante de la mensualité et du coût total dans le cadre des négociations. Donc, la baisse des taux depuis un peu plus d'un an a permis à un client, un couple par exemple qui gagne 4 000 euros par mois, d'acheter 25 000 euros de budget en plus avec la même mensualité que l'année dernière, ou de rester sur le budget qu'il avait l'année dernière, mais d'avoir environ 150 euros de moins sur sa mensualité. Donc oui, la baisse des taux fait du bien. On se rend compte que les clients font de plus en plus de calculs de budget dans nos agences, c'est-à-dire viennent calculer leur capacité d'emprunt pour savoir quels sont les biens sur lesquels ils peuvent se positionner.
Donc tout frais compris, le taux moyen atteint près de 4% pour une durée de 20 ans et plus au premier trimestre, toujours selon la Banque de France. Et par exemple, pour 100 000 euros empruntés, il faut environ 45 000 euros de coûts de crédit sur la durée du prêt. Pouvez-vous nous expliquer, Diane Lévy, à quoi sert un courtier? Beaucoup de questions en ce sens d'auditeur.
C'est vrai, c'est génial.
À quoi vous servez?
À plein de choses. Alors, il faut savoir qu'un courtier en prêt immobilier, c'est l'intermédiaire qui va se positionner entre le client et les banques qui prêtent de l'argent. Donc, un client va voir un courtier pour présenter un projet qu'il a. Et le courtier va d'abord être dans un rôle de conseil, c'est primordial. D'abord, valider le financement, savoir si le projet qu'il a, si la maison qu'il a vue ou l'appartement, bah ça, en termes de prix, ça passe. Ça, c'est la première chose. Le conseil en termes de budget. Ensuite, le courtier va découvrir son client, son projet, les enfants à venir, ses perspectives de revente à moyen long terme, la façon dont il travaille, télétravail à la maison, s'ils ont envie de bouger dans pas longtemps, etc., pour pouvoir adapter les recherches vis-à-vis des banques qui seront les mieux placées et qui répondront le mieux aux besoins du client. Et une fois qu'on a vu tout ça et qu'on sait à peu près le projet de vie du client, même s'il y a toujours des aléas, passe la phase de négociation. parce qu'évidemment, on est aussi là pour négocier à la place du client.
Vous négociez les prêts aussi ?
Ah, on négocie absolument tout ce qui est au financement, tout ce qui est lié au financement.
L'assurance emprunteur également.
Tout. Le client, quand il dépose son dossier de prêt à un courtier, il lui donne toute sa vie. Pièce d'identité, revenus, bulletin de salaire, etc. Et à partir de là, le courtier va négocier l'ensemble des conditions, le taux, l'assurance, la garantie, les frais de dossier, auprès des banques à sa place.
Christophe Van der Meren.
Oui, le recours à un courtier devrait être un passage obligatoire et préalable à toute visite d'un bien immobilier.
Non, oui, mais c'est vrai.
Il y a tellement d'acquéreurs qui viennent visiter un bien, qui s'emballent à l'occasion d'une visite, qui ont un vrai coup de cœur et qui voudraient faire une offre. Sauf qu'on ne peut pas faire d'offre si on n'a pas un plan de financement, déjà validé. Bien et ça peut être un vrai problème.
Lionel Mauguin de 60 millions de consommateurs.
Alors, il va s'énerver. Non. Premièrement, évidemment, le courtier, il obtient des conditions que vous ne pourrez pas avoir directement avec votre banque. C'est établi. Nous, on a fait des comparatifs depuis des années. On va en refaire un, là. Après, quel courtier choisir ? En réalité, le courtier, il travaille avec un certain nombre de banques. Vous ne travaillez pas avec toutes les banques, je crois.
Ça dépend des régions. Mais la plupart des... Oui, évidemment.
Donc, vous ne faites pas tout le marché. Nous, ce qu'on conseille, c'est de faire recourir à un courtier, effectivement. Et puis après, d'aller voir sa banque, parce que c'est quand même un peu fastidieux de changer de banque quand vous achetez. Et donc, dire, ben voilà, on me propose tant, est-ce que vous pouvez vous aligner ? C'est assez simple, c'est assez basique. Et alors, c'est là que le banquier va dire, ben vous, ok, mais vous me prenez l'assurance habitation, vous me prenez...
Ou pas, parce que le rôle du courtier, pardon, c'est aussi de faire en sorte que le banquier du client s'aligne.
C'est clair. Non, mais c'est de la négo, vous voyez bien comment ça peut se passer.
La banque du client au départ, c'est vraiment de l'intégrer, de dire, tiens, le voisin fait cette proposition au même titre qu'un abonnement téléphonique où vous seriez prospect.
L'un des problèmes, peut-être, soumis au débat, mais c'est la Cour des comptes qui avait soulevé ça, c'est que vous ne touchez votre rémunération que si l'opération se fait. La plupart du temps, l'agent immobilier ou le courtier travaille pour rien. Et c'est peut-être une réforme à envisager. Il n'y a pas de raison que vous travaillez pour rien. Et donc, c'est aussi pour ça que les commissions des agences sont élevées. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on pourrait imaginer que vous travaillez à la tâche, comme dans d'autres pays.
Et on n'a pas le temps. On a beaucoup de questions sur le prêt à taux zéro. Mais on n'a pas le temps, hélas. Juste en quelques mots, vaut-il mieux acheter, louer ou se mettre en colocation pour répondre à la question de l'émission ? Allez, Olivia Marin.
Non, mais justement, le prêt à taux zéro, c'est un levier pour l'accession à la propriété très important. C'est effectif depuis quelques jours, c'est un prêt sans intérêt garanti par l'État qui peut couvrir jusqu'à 30% d'une maison neuve et jusqu'à 50% pour le prix d'un appartement neuf. C'est intéressant, c'est une bonne nouvelle.
Acheter ou louer plutôt, Lionel Mauguin ? Qu'est-ce que vous conseillez en ce moment ?
Si vous avez fait une belle rencontre, si vous avez des projets d'art... Je suis désolé, je vais répondre la même chose.
Il est romantique.
Si vous êtes à peu près sûr que ça va durer quelques années, il faut acheter. Et puis c'est un rêve de tout le monde. Par contre, si vous avez un métier qui vous fait bouger souvent... Si vous n'êtes pas sûr de rester dans cette ville, si vous êtes en contrat précaire, il faut louer.
Et investir.
Et investir éventuellement, si on a les moyens.
Merci à toutes et à tous. Merci Diane Lévy, merci Rémi Houdguéry, Christophe Van der Meren, Olivier Marin et Lionel Mauguin. Tout va bien, 60 millions de consommateurs, ça va mieux en quelque sorte.
Ça va mieux, on a encore repoussé hier une tentative de vente par l'État. Donc je crois que... Les citoyens, les médias, les associations de consommateurs sont pour le maintien de 60 dans le giron public de l'INC.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.